Bonjour et bienvenue dans la chronique commerciale américaine, le podcast des spécialistes de la politique commerciale américaine. Dans ce premier épisode, nous décortiquons les rouages de la rivalité commerciale entre les États-Unis et la Chine dans la région de l'Indo-Pacifique. Je suis Brice Armel-Sineux, doctorant et chercheur en résidence au Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation du CIM de l'UQAM. C'est une unité de recherche membre de l'Institut d'études internationales de Montréal, l'EIM. Aujourd'hui, en compagnie de notre invité, M. Christian Debloc, nous plongeons au cœur des enjeux géopolitiques et commerciaux de cette région de l'Asie-Pacifique. L'Indo-Pacifique est devenu le théâtre principal de la rivalité entre les États-Unis et la Chine, avec des tensions qui ne cessent de s'accroître ces dernières années. Au cours de l'automne 2023, on a observé une série de mouvements stratégiques, mais aussi une intense activité diplomatique menée par Washington et Pékin. Joe Biden a cherché à renforcer la présence américaine en Asie à travers plusieurs sommets touchant à cette région, tandis que Xi Jinping a œuvré pour sécuriser les partenariats stratégiques pour l'économie chinoise, notamment au sommet des BRICS. Les pays de l'ASEAN et les îles du Pacifique sont au cœur de cette rivalité croissante, cherchant à naviguer entre les intérêts américains et chinois, tout en préservant leur autonomie. Les accords commerciaux impliquant les pays de la région se multiplient au point de former un bol de spaghettis de plus en plus complexe à démêler. Pour mieux comprendre ces dynamiques et leurs conséquences, nous recevons aujourd'hui M. Christian Debloc, économiste et spécialiste des accords commerciaux et du libre-échange. M. Christian Debloc est professeur honoraire au département de sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM. Il est le fondateur du Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation, le CIM. Son expertise dans le domaine des relations économiques internationales nous sera précieuse pour analyser les enjeux complexes de la rivalité commerciale en Indo-Pacifique.
Le thème de notre échange aujourd'hui avec le professeur Debloc portera sur l'Indo-Pacifique dans la rivalité commerciale États-Unis-Chine, l'enjeu des réseaux d'alliance. C'est le thème de la chronique commerciale américaine publiée ce mois de février 2024. Professeur Debloc, bonjour et bienvenue à ce podcast.
Bonjour, Monsieur Sinop. Bienvenue aussi à vous.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Vous êtes un spécialiste reconnu des accords commerciaux, du libre-échange et aussi de la politique commerciale américaine. Nous souhaitons discuter avec vous au cours de ce premier épisode sur ce qui se passe en Indo-Pacifique. C'est une thématique de plus en plus importante dans les centres de recherche. On s'intéresse à cette question, notamment à la rivalité qu'on observe entre les États-Unis et la Chine. On sait qu'il y a des rivalités commerciales entre ces deux superpuissances. Pourquoi l'Indo-Pacifique suscite tant l'intérêt des grandes puissances aujourd'hui, et notamment des États-Unis? Est-ce qu'on pourrait commencer par simplement présenter ce que c'est que cette zone Indo-Pacifique?
Bien, ben écoutez, c'est une très bonne question pour commencer, parce que le concept d'Indo-Pacifique est un concept qui a émergé il y a quelques années à peine et que tout le monde prend pour acquis, alors qu'il est vraiment tout sauf acquis. D'ailleurs, la Chine refuse de ce concept-là, dans la mesure où elle le considère centré contre elle. Donc, vous voyez, c'est déjà c'est un concept très litigieux. Deuxième objet du litige, c'est que on a du mal à circonscrire c'est quoi l'Indo-Pacifique exactement. En fait, il y a trois approches différentes. Il y a une approche très large, qu'on peut qualifier de maximaliste, qui avait été au départ celle qu'avait retenue l'ancien Premier ministre du Japon, Shinzo Abe, qui en fait, lui, considérait l'Indo-Pacifique à la confluence de l'océan Pacifique et de l'océan Indien. Donc, c'était quand même relativement clair, mais il y a d'autres, très vite, on a cherché à élargir ce concept-là. Et notamment le Canada, quand il aborde l'Indo-Pacifique, il a une vision extrêmement large qui regroupe 40 économies jusqu'en Afrique. Et même à ce moment-là, on a une position, au fond, qui quasiment qui n'est pas tenable en termes d'approche, parce qu'on a 40 économies, c'est les deux tiers de la population mondiale, c'est la moitié du pays mondial, du PIB mondial, ça signifie quoi exactement? Donc ça, c'est une première version, elle est très maximaliste, et en général, les auteurs ne la retiennent pas vraiment. Il y a une deuxième approche qui consiste à regarder les liens commerciaux. Et là, c'est la position un peu de l'ASEAN, même si au départ, l'ASEAN était très opposée à ce concept-là, préférant plutôt le concept d'Asie-Pacifique. Mais l'ASEAN, finalement, s'est ralliée malgré tout au concept. Elle le voit finalement dans un intérêt des liens économiques et commerciaux, avec toujours la centralité des liens autour d'elle. Donc ça, c'est une deuxième approche qu'on peut regarder, c'est la nature du commerce, la nature des liens économiques qui réunissent ces économies à l'intérieur d'une zone dont le centre, entre guillemets, serait l'ASEAN. Et enfin, il y a une troisième analyse qui est beaucoup plus restrictive, c'est un peu, je dirais, l'analyse américaine, qui repose sur une vision très stratégique. Les États-Unis ont une définition, ils l'ont jamais vraiment définie, sinon sur le plan militaire. En fait, c'est le bureau de commandement, vous savez, ils avaient des commandements qui sont par grandes régions du monde. Et avant, ce qu'on appelait dans la stratégie militaire américaine le commandement de l'Asie-Pacifique, on l'a transformé maintenant en Indo-Pacifique parce que le concept a émergé plutôt que celui de l'Asie-Pacifique à la Maison-Blanche pour inclure notamment ce qui est essentiel, c'est l'Inde. Et fondamentalement, dans l'approche américaine, c'est la région qui gravite autour des pays d'Asie et autour de l'Inde. Donc, c'est cette définition-là qu'on peut retenir, mais même à l'intérieur de cette région-là, qui reste encore large, il y a une sélection de pays. Ce n'est pas tous les pays qui sont concernés par ce concept.
Mais ce que vous expliquez est très intéressant à poursuivre comme réflexion, Monsieur de Blocq, surtout sur l'approche américaine. On sait que depuis Barack Obama, on parle beaucoup du pivotement de la politique commerciale américaine vers l'Asie. Et de Donald Trump à Joe Biden, il y a un discours sur la menace de l'expansion chinoise en Asie. Est-ce qu'on se situe dans une forme de continuité où il y a des spécificités qui sont propres à chaque administration dans son rapport à l'Indo-Pacifique? Et si on regarde ces administrations-là, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme pilier de la stratégie américaine de l'Indo-Pacifique? Quels en sont les grands axes?
Écoutez, on va diviser votre question en deux. D'abord, la continuité dans la stratégie américaine. Vous avez évoqué Obama. C'est vrai qu'Obama, avec le Transpacifique et le pivotement vers l'Asie-Pacifique, c'est un élément charnière. Mais il faut remonter, je dirais, même plus haut encore à Bill Clinton. Parce que c'est sous Bill Clinton, finalement, que les États-Unis ont été impliqués dans une initiative importante. C'est le Forum économique Asie-Pacifique, ou si vous préférez, l'APEC. C'est d'ailleurs quelque chose d'assez intéressant dans la politique américaine. Les États-Unis n'ont jamais vraiment été à l'origine de ces grandes initiatives, aussi bien le Transpacifique que l'APEC, ou encore aujourd'hui l'Indo-Pacifique. Là, j'ai évoqué le nom de Shinzo Abe tantôt, car c'est une idée qui vient du Japon. Et d'ailleurs, le Japon joue toujours un rôle assez important dans la mise en place de ces grandes initiatives. Mais très vite, les États-Unis par opportunisme, ont vu l'intéressant et ont embarqué là-dedans, mis tout leur poids, dans le fond, pour arriver à des résultats quand même relativement importants. Donc, la première initiative, c'était l'APEC, les États-Unis, à l'époque, ils voyaient un grand intérêt, parce qu'évidemment, il y avait l'Asie, il y avait tout le décollage de l'Asie. La Chine était encore assez balbutiement en ce moment-là, hein, dans les années 80, mais il y avait quand même les dragons, il y avait tout ce qu'on appelait aussi à l'époque les nouveaux pays industrialisés d'Asie, qu'on appelle aujourd'hui les pays émergents, qui présentaient un intérêt important. Et on voyait bien que la dynamique, je dirais, du monde était en train de se déplacer vers l'Asie, ce qu'on appellera plus tard l'Asie-Pacifique. Donc l'APEC était une manière en quelque sorte de faire le lien par le Pacifique, entre l'Asie et l'Amérique. La deuxième étape de ça, elle va venir plus tard, je dirais, avec justement, vous l'avez évoqué avec Obama, mais il y a deux choses qui vont se produire entre les deux. La première, c'est que l'APEC n'a pas donné les résultats escomptés par les États-Unis. L'APEC va certainement créer des liens, où ils se réunissent toujours, tous les ans d'ailleurs, une approche très, très novatrice, à la mesure où les milieux d'affaires sont très impliqués à les rencontres économiques, etc. Donc, des rencontres importantes qui vont permettre de créer des dialogues, qui va permettre également de faire des discussions, finalement, qui sont quand même non négligeables entre les dirigeants politiques. Également aussi, un point qui n'est pas important, c'est que ça va permettre à la Chine, pour la première fois, dans le fond, de tester sa diplomatie. C'est les premiers pas, l'APEC va être constitué les premiers pas de la diplomatie chinoise.
Mais
Il y a un deuxième
qu'est-ce
élément
que les
aussi.
États-Unis veulent quand même, professeur de Bloch, dans cet investissement diplomatique dans l'APEC et dans l'Indo-Pacifique? Comment pour formuler la volonté des États-Unis? Qu'est-ce qu'ils cherchent dans cette zone?
À l'époque, c'est un point, je pense, que vous soulignez, un point qui était très clair là-dedans, c'était l'idée d'intégrer, c'était vraiment de l'idée d'internationalisme libéral, c'est-à-dire l'idée, en quelque sorte, d'intégrer la Chine dans la diplomatie économique et commerciale, et par ce faire, de l'amener, en quelque sorte, à se transformer, à devenir une démocratie comme les autres pays, ou une économie de marché comme les autres pays. Et ça m'amène au deuxième événement, je pense, qui était important dans l'évolution de l'APEC, c'est que on s'était entendu à Bogor pour, lors de la conférence de Bogor, pour créer une zone de libre-échange transpacifique. Et ce projet-là n'a pas abouti finalement. Oui, on s'est entendu là-dessus, mais concrètement, il n'y a jamais eu vraiment de négociation. Donc ça a marqué, je dirais, beaucoup les évolutions par la suite. Alors, vous avez évoqué, on peut évoquer l'administration Bush, qui s'est vraiment, je dirais, désintéressée de l'Asie Pacifique, et de l'Asie en général, pour des raisons de conjoncture politique.
Avec la lutte contre le terrorisme et tout.
Oui, c'était le terrorisme, c'était le Moyen-Orient, on va négocier des accords, multiplier les accords, etc. Mais disons que donc il y a eu un recul d'intérêt des États-Unis pour l'Asie et qui a permis à la Chine de gagner des points et d'avancer plus rapidement. Alors là, on est arrivé finalement avec Obama. Obama, là encore, il y avait comme, je dirais, du flottement vis-à-vis de l'Asie Pacifique dans le premier mandat, mais le deuxième mandat, il a repris l'idée finalement qui avait été lancée par plusieurs pays, notamment d'Asie, comme l'Asie ou de l'Océanie, l'Australie, le Japon, d'avoir une entente transpacifique. Et donc les États-Unis ont embarqué là-dedans. Ça avait d'ailleurs été lancé sous l'administration de Bush en fin de mandat, mais les États-Unis l'avaient plus ou moins laissé faire. Et finalement, dans le deuxième mandat de l'administration Obama, ils ont vraiment investi là-dedans et ils ont progressé, et au point d'ailleurs que Obama a mis tout son poids, en quelque sorte, pour arriver à une entente importante avec les pays que vous connaissez. C'était quand même l'occasion là de non seulement de pivoter vers le Pacifique, mais également aussi de faire un pont entre deux grandes régions économiques du monde, les Amériques et l'Asie. Et
C'est le
d'ailleurs,
traité transpacifique.
ça va être le partenariat transpacifique que vous connaissez. Et d'ailleurs, il est quand même intéressant de souligner à ce propos qu'il y avait quand même un certain nombre de pays d'Amérique qui étaient parties prenantes à ces négociations-là, dont le Canada, même si c'est arrivé tardivement, mais on était partie prenante parce que c'était l'idée d'un pont entre l'Asie et l'Amérique. Alors arrive Trump qui, lui, la première chose qu'il va faire, c'est retirer la signature des États-Unis de ce traité, qui était une affaire tout à fait absurde, parce que c'était vraiment une grande réussite des États-Unis, qui avaient, par là, signé un accord de libre-échange, qui impliquait des pays comme le Japon et d'autres, notamment de l'ASEAN, avec lequel les États-Unis n'avaient pas d'accord de commerce. Ça permettait également de remettre en ordre les accords existants, notamment l'ALENA. Donc bref, tout ça s'est jeté à terre. Mais à l'époque, Trump va quand même reprendre l'idée qui avait été lancée par Abe du concept de l'Indo-Pacifique. Il va proposer une initiative qui va rester un peu lettre morte, qui est un peu floue, mais qui visait dans son esprit à la fois à contenir la Chine et en même temps aussi à reprendre place en Asie Pacifique, entre guillemets, suite à l'échec, enfin, suite au retrait des États-Unis du partenariat transpacifique. Ça va être une initiative pour un Indo-Pacifique ouvert et libre, hein, free and open, donc, mais quelque chose, au fond, qui convaincra personne. Et là, on arrive à l'étape actuelle, Joe Biden. Alors, là, avec Biden, il y a une volonté, je dirais, de repenser les relations. Et ils vont reprendre le concept d'Indo-Pacifique pour le transformer à leur image. Avec Trump, c'était vraiment très agressif sur la Chine. C'était. Et en fait, les États-Unis n'avaient pas, ils n'avaient pas intérêt, ils n'étaient pas intéressés plutôt à coopérer avec les pays impliqués. Ce n'était pas leur option, c'était qui même me suivent, et puis si vous ne suivez pas, ce sera le même prix. Donc là, avec Biden, il y a une volonté, je dirais, de changer d'approche, de renouer avec les alliés, de reconnaître encore une fois l'importance qu'a pris toute la région du Pacifique, mais également aussi de reconnaître l'importance d'un pays qui s'appelle l'Inde, qui jusqu'à présent était toujours un peu à part, qui était toujours. Bon, les négociations ont toujours été difficiles avec l'Inde. Bref, donc, il y avait ça de nouveau, mais également aussi, c'est un autre élément qui va peser beaucoup dans la balance, c'est de reprendre, de définir une approche nouvelle en matière de négociation. Parce que on ne peut pas continuer avec les accords de libre-échange qui sont mal acceptés aux États-Unis même. Donc il faut tout repenser ça. Et c'est là que va apparaître l'initiative l'IFEP, qui va être lancée finalement, l'Indo-Pacifique, l'IPEF, pardon, le Forum économique pour l'Indo-Pacifique et la prospérité. Une initiative américaine qui va en quelque sorte aller de l'avant et chercher à renouveler les relations avec l'Asie-Pacifique, les relations avec l'Inde, mais également aussi renouveler la manière pour les États-Unis d'aborder les questions économiques et commerciales. Donc voilà un peu, je dirais, très schématisé, l'évolution de cette approche américaine qui, au départ, était très marquée par, je dirais, l'idée internationaliste que par le commerce, on peut développer des relations plus chaleureuses, plus heureuses, mais également aussi que les économies comme la Chine peuvent se transformer. Cette approche-là a été progressivement battue en brèche parce que les États-Unis se sont rendus compte qu'il n'est pas facile de négocier avec l'Asie-Pacifique, mais également aussi, il y a un point qui est devenu crucial aujourd'hui, qui sans, on aura du mal à revenir en arrière, c'est la notion de sécurité économique qui a été mise de l'avant par l'administration Trump et pour lequel l'administration Biden, même si on regarde l'esprit internationaliste, cette idée de sécurité économique est très présente.
Mais si on revenait à la signature au retrait des signatures des États-Unis du traité transpacifique, est-ce qu'on pourrait dire que cela explique finalement le succès diplomatique de la Chine à signer l'ASEAN plus 3, l'Eurosep finalement, que la Chine a réussi à signer avec les pays de l'ASEAN en associant aussi la Corée du Sud et le Japon?
Bah écoutez, il faut le dire comme c'est. Le grand succès diplomatique, qui était vraiment, je l'avais souligné à plusieurs reprises, c'est certainement le partenariat transpacifique, les États-Unis. C'était un coup de maître de l'administration Obama. C'est pour ça que c'était une folie de la part de, j'utilise bien mon terme, de la part de l'administration Trump, de retirer la signature des États-Unis, d'avoir une approche plus directe avec la Chine, bilatérale, avec des négociations et tout. Et il y a quelque chose qui s'est produit finalement pour l'administration Trump, c'est le Covid. C'est après, vous voyez, c'était après ça, plus tard, ça viendra la guerre de l'Ukraine, mais le Covid a marqué vraiment la situation. Et là, c'est le coup de maître de la Chine. Dans une réunion autour avec les pays de l'ASEAN plus 3, etc., autour de l'APEC, d'annoncer que les négociations allaient se terminer, qui étaient terminées. Et donc, là, la Chine a mis beaucoup d'eau dans son vin pour obtenir cet accord. Ça va être le regroupement, le RCEP, là, le regroupement économique global et régional, je pense, on appelle le PERG en français, signer un accord, je dirais pas de libre-échange, mais de facilitation des échanges dans une zone qui va recouvrir quoi? Ben, d'abord, les 10 pays de l'ASEAN. Chine, Corée, Japon, également aussi les deux partenaires, je dirais, dans la région de l'Océanie, l'Australie et Nouvelle-Zélande. Donc voilà, ces pays-là qui s'entendent finalement entre eux, mais il y a quelque chose qui s'est produit, c'est pour ça que je parle d'un succès diplomatique de la Chine à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est d'avoir réussi finalement, pendant la crise du Covid, à obtenir une entente, et c'est un vrai pied de nez aux États-Unis avec tous ces pays-là. Mais également aussi, l'autre point qui est important, c'est que c'est un pied de nez également à la vision, je dirais, de l'intégration en Asie de l'ASEAN. L'ASEAN a toujours chercher à faire reconnaître sa centralité dans tous les projets finalement de négociation en Asie. L'ASEAN est très impliquée sur le plan diplomatique, elle a des accords avec à peu près tout le monde, ça bouge beaucoup, c'est une région qui bouge énormément, mais elle tient à la fois à sa cohérence, sa cohésion. Elle est d'ailleurs engagée dans un processus de création, d'intégration à l'européenne, même très, très poussée, mais en même temps, elle multiplie les initiatives diplomatiques. Et là, la Chine, dans le fond, tout en reconnaissant, évidemment, le conseil de langage, mais tout en reconnaissant, finalement, la centralité de l'ASEAN, mais en fait, c'est elle qui, maintenant, contrôle la machine.
Revenons un peu à l'ASEAN, Monsieur de Blocq, et notamment à l'Asie, à cette place finalement centrale des pays de l'Asie du Sud-Est. Quelle place est-ce que l'ASEAN occupe dans la stratégie indo-pacifique des États-Unis? On sait qu'ils sont très ancrés à la mi-localisation et au découplage vis-à-vis de l'économie chinoise.
On a évoqué les questions de sécurité. Les questions de sécurité sont devenues extrêmement présentes. Pour une raison, pour deux raisons, je dirais. D'abord, c'est que la Chine est devenue le partenaire commercial numéro un de très grand nombre de pays dans le monde, et plus particulièrement en Asie de l'Est. Donc, dans cette région-là, l'Asie de l'Est et du Sud-Est, la Chine occupe une place maintenant primordiale. De ce point de vue-là, pour les États-Unis, c'est quand même un problème, dans la mesure où il y a des partenaires importants. Je pense à Singapour, je pense même au Vietnam, qui cherche, lui, à contrebalancer l'influence chinoise par les États-Unis. Mais également aussi, je pense à des partenaires d'Océanie comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Donc, il y a quelque chose qui est là, qui est important. Finalement, la Chine occupe une position dominante. Deuxième élément aussi important, c'est que la Chine est devenue un partenaire plus qu'ombrageux. C'est un pays qui affirme ses ambitions et qui cherche à imposer ses ambitions. La Chine, elle a une pratique, je dirais, ancestrale. Il n'y a pas besoin, je dirais, d'utiliser la force pour imposer sa vision. Ce que la Chine attend de tout le monde, c'est qu'on reconnaisse que la Chine est grande, que la Chine est la numéro un. Bon, ça, c'est le deuxième élément qui est important. Et ça pose aussi des conflits, même en Asie. Les conflits de frontières, les
Oui,
conflits
en mer méridionale, dans les mers du sud méridional.
des îles, tout ça, ce sont des pleins de conflits. Mes collègues, avec Frédéric Lasserre, avaient été revenus là-dessus. C'est quand même assez impressionnant de voir le nombre, les batailles pour les îles, il faut qui disparaissent avec les marées, mais qui reviennent avec la marée, enfin des trucs. Bon, bref, il y a ça. Et puis également aussi, c'est que la Chine, elle a des armes, je dirais, pour convaincre les partenaires. On le voit bien avec le Canada, on le voit bien avec c'était l'Australie, on le voit bien avec d'autres pays. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ben, je peux couper le commerce. Et là, quand on parle de couper le commerce, ce n'est pas simplement, je dirais, couper les produits ordinaires. Hein, ce n'est pas les produits que vous achetez chez Dollarama ou ailleurs. Non, et c'est aussi les technologies, c'est les terres rares. Et donc, la Chine est devenue un partenaire qui veut imposer une sorte d'hégémonie soft, mais avec quand même, en sachant très bien qu'elle peut utiliser la force le cas échéant. Et donc, la position américaine sous Trump s'est dit vis-à-vis d'un partenaire comme ça, moi je veux aussi imposer, je dirais, mes positions. Ça a été quand même un combat de coq, disons-le, entre la Chine et les États-Unis. Et pour la première fois, la Chine a reculé face à l'administration Trump. Il faut lui reconnaître ça. Ils ont obtenu un accord. Maintenant, dans les faits, il faut qu'il ait signé. Ça n'a pas donné les résultats escomptés, mais la Chine a quand même reculé, a pris pas par rapport à ça. Donc, tout ça vient animer l'approche américaine actuelle, à la fois de resserrer des liens avec des partenaires qui ont aussi un intérêt à être présents, à être reconnus, également aussi sécuriser les chaînes de valeur. Les approvisionnements, on l'a vu, les problèmes que ça a posé pendant le Covid, les médicaments, mais également aujourd'hui, ça peut être les batteries, ça peut être toutes sortes de choses qui rentrent dans les technologies. Et puis surtout, c'est peut-être le principal enjeu à l'heure actuelle de tout ça, c'est que les États-Unis ont une avance technologique qui est importante, que la Chine cherche à combler finalement. Et ça, ils veulent la garder, cette avance-là. Et donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte dans l'approche américaine dans l'Indo-Pacifique, en s'appuyant sur des partenaires comme l'ASEAN, comme l'Inde, comme l'Australie. Mais en même temps, ça reste à voir qu'est-ce que ça va donner, parce que la Chine est quand même toujours très présente. Et surtout, tout le monde est un peu bouleversé par, l'approche de négociation des États-Unis.
Mais revenons un peu à ces grands accords qui caractérisent finalement ou qui impliquent finalement les pays d'Asie Pacifique. On a vu le RCEP, on a parlé du traité transpacifique, on a parlé de l'IPEF. Mais qu'est-ce qui distingue finalement ces accords-là? Est-ce qu'il y a des spécificités liées à chacun des accords? Et quels sont les enjeux finalement commerciaux qui sont liés à ces accords dans le cadre de la rivalité sino-américaine?
C'est devenu, disons, l'Asie sur le plan institutionnel est devenu un panier de crabes, n'ayons pas peur des mots. Là, on a souvent parlé du bol de spaghettis à propos des accords de commerce, mais là, sur le plan institutionnel en Asie, c'est devenu extrêmement compliqué. J'ai évoqué l'APEC, on peut évoquer le RCEP, on peut évoquer le partenariat transpacifique global et progressiste dans lequel le Canada est impliqué, on peut maintenant évoquer l'IPEF, il y en a encore d'autres, des accords commerciaux bilatéraux, etc. Ce que l'on voit, en fait, je dirais, par-delà cette structure extrêmement complexe. Il y a des pays qui sont dans tel accord, qui ne sont pas dans l'autre. Bon, prenez les pays de l'ASEAN. Il y a 7 pays sur 10 qui sont dans les négociations de l'IPEF. Il y en a 3 qui ne sont pas. Vous voyez. Par contre, ils sont dans le RCEP. Donc, vous voyez, tout ça fait quelque chose d'extrêmement compliqué, sans oublier les pays qui ne sont pas là, d'ailleurs. Le Canada est dans le partenariat transpacifique global et progressif, mais il n'est pas dans l'IPEF. Il ne pense pas que les États-Unis sont pour le moment intéressés à voir le Canada apparaître. Et le Canada lui-même a énormément de difficultés en Asie-Pacifique. Bon, donc une complexité extrêmement forte, mais ce que l'on voit, et pour moi c'est peut-être ça qui est le plus important, c'est qu'on est en train d'assister, je pense, à une consolidation de blocs économiques. On le voit de plus en plus, je dirais, à l'heure actuelle. Il y a comme des blocs qui commencent à émerger. On avait déjà évoqué cette question dans les années 80, mais c'était là à l'époque, on avait du mal avec l'Asie parce qu'il y avait l'Europe, il y avait les Amériques avec tous les grands projets à l'époque. Mais l'Asie, on ne voyait pas ça clairement. Mais là, aujourd'hui, on le voit clairement. Et quand je parle de blocs, il y a évidemment une dimension économique. Il y a une dimension aussi culturelle. Il y a une dimension réglementaire, une dimension institutionnelle. C'est des visions de voir l'économie du monde, de voir le régionalisme, de voir les valeurs qui est différente. Hein? Peut pas. L'Europe, c'est pas simplement, je dirais, des flux commerciaux. C'est pas simplement. Donc, il y a les chiffres. Et là, ce qu'on voit maintenant aujourd'hui, parce que, vous savez, ça fait longtemps que je travaille sur ces questions. Vous l'avez répété d'ailleurs en entrée de jeu. Je vois les chiffres. Moi, je vois l'ASEAN. L'ASEAN, en gros, alors, on ne va pas chipoter, c'est 25% du commerce qui se fait entre les pays eux-mêmes. C'est le quart du commerce qui. C'est solide, hein, mais c'est quand même le quart du
On
commerce.
est très loin de l'Union européenne, hein?
On est très loin de l'Union européenne. Bon. Mais là, si vous rajoutez l'ASEAN plus 3 avec Chine, Japon et Corée, ben, on commence à monter à des chiffres autour de 36%, 37%. D'ailleurs, dans le texte que vous avez évoqué, que j'ai écrit récemment, les chiffres sont là. Mais si vous allez que le RSCEP, on est à plus de 50%. Donc, vous voyez, 50% du commerce dans une région qui se fait, qui est très dynamique, qui est très en pointe, c'est quand même important. Là, vous avez l'Union européenne, vous venez de l'évoquer. L'Union européenne, même, je dirais, sans la Grande-Bretagne, c'est quand même à peu près 60% du commerce qui se fait à l'intérieur de l'Europe. Vous prenez les Amériques maintenant. Je prends uniquement l'ALENA, ou si vous préférez aujourd'hui la CEOM, hein, l'accord États-Unis-Canada-Mexique.
Merci.
On est autour de 35%. Mais si vous rajoutez finalement le bloc, le CAFTA, l'Amérique centrale, pour lesquels les États-Unis ont des accords de libre-échange et qu'ils ont des relations économiques très étroites aussi avec les États-Unis, on arrive aussi autour de exactement 50%. Donc, vous voyez, sur le plan commercial, on voit émerger ces trois blocs-là autour du RCEP, en principe autour de l'ASEAN, mais en fait, c'est la Chine qui est quand même omniprésente. L'Europe, avec l'Allemagne au centre, qui est autour de 60%. Et puis là, vous avez l'Amérique du Nord qui est très consolidée. Alors, on voit quelque chose qui émerge au niveau économique. Et c'est pour ça que l'idée américaine, non seulement de jeter des ponts sur l'Atlantique, sur le Pacifique, est importante, mais également aussi de consolider les chaînes de valeur, de sécuriser les chaînes de valeur. On va négocier, c'est ça le principe de la mi-localisation, on va négocier avec des amis. On veut être sûr, on ne veut pas qu'il y ait des entourloupettes. Donc, il y a cette dimension-là, double dimension, consolider. La CEOM, d'ailleurs, je l'ai montré à plusieurs reprises, la CEOM consolide l'intégration d'Amérique du Nord.
Oui, il y avait le contenu notamment en valeur régionale.
Voilà, les ponts que font les États-Unis vers d'autres pays, etc. Mais n'oubliez pas l'élément aussi fondamental, c'est que ce n'est pas simplement des questions économiques qui sont en jeu, c'est des questions, je me répète, des questions institutionnelles, des questions réglementaires, des questions de valeurs. Quelles sont les valeurs que vous mettez de l'avant? Sur les valeurs, l'Europe est bien plus avancée que peuvent l'être les États-Unis, par exemple. Et si vous regardez l'Asie, ben là, sous prétexte, on n'intervient pas dans les pays, quoi, donc on se mêle de rien. On fait semblant de se mêler de rien, vous comprenez? Donc, c'est quand même des enjeux importants. Et surtout, je dirais qu'aujourd'hui, l'enjeu fondamental de la négociation, ce n'est pas tellement les tarifs douaniers ou autre, ce n'est pas ça. Non, ce sont les réglementations. Parce que les réglementations, c'est devenu le principal obstacle aujourd'hui, non seulement au commerce matériel, mais surtout au commerce qui est de plus en plus dématérialisé. Pensez à l'électronique, pensez au commerce électronique, pensez à l'Internet, pensez à l'intelligence artificielle. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des règles différentes sur l'Internet, par exemple, d'une région à l'autre. Et là, ça devient un enjeu très important dans les négociations de l'IPEF, notamment. Il y a non seulement la sécurité des chaînes de valeur, la résilience des chaînes de valeur, il y a la question technologique, la protection technologique, mais également aussi la protection des données.
La coopération réglementaire.
Oui, voilà, on est en plein dans les discussions réglementaires. Et c'est pour ça que la formule qui est initiée par les États-Unis est une formule, on ne sait pas trop ce que ça va donner, est-ce que c'est la bonne, j'en sais rien, mais c'est une formule qui est originale et qui se démarque fondamentalement de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et c'est vrai avec l'Europe, parce que les États-Unis négocient avec l'Europe. Avec l'Amérique latine, bon, ça c'est un peu plus vague, mais aussi avec l'Asie, où là on discute de questions nouvelles, des questions économiques, des questions de réglementation, des questions de sécurité, des questions de protection de données, des questions électroniques, que sais-je, voyez? Donc il y a vraiment quelque chose qui se met en place avec ces trois régions-là, mais qui va au-delà la question économique. Mais si vous sécurisez pas l'économie, ben vous êtes pris dans un problème aussi. Comment voulez-vous affirmer vos valeurs si vous n'êtes pas capable de défendre vos intérêts? Voyez, on oublie ça. Ça a été rappelé récemment par l'ancien ministre des Affaires étrangères de la France, Hubert Védrine. Si vous n'êtes pas capable de défendre vos intérêts, vous ne pouvez pas défendre vos valeurs. Voilà. Et donc, là, on voit bien que les enjeux qui sont de plus en plus importants.
Mais en même temps qu'il y a ce déploiement de la diplomatie américaine, hein, de plus en plus vigoureuse sur Joe Biden, en même temps, on observe quand même un mouvement assez protectionniste aux États-Unis avec les lois comme le Chips and Science Act pour rapatrier les chaînes de valeur technologiques aux États-Unis. Comment comprendre ces deux dynamiques qui évoluent ensemble aujourd'hui?
D'abord, M. Simeux, j'aime pas le mot protectionniste. Le protectionnisme n'est plus de notre temps. Le protectionnisme était important au moment de la révolution industrielle, un peu partout dans le monde, mais aujourd'hui, on ne peut plus parler de protectionnisme dans la mesure où le protectionnisme se retourne toujours contre ceux qui le pratiquent, parce que ça augmente les coûts, etc. Je pense qu'il y a une dynamique, il y a deux dynamiques nouvelles qui ont émergé aujourd'hui qui nous permettent de rabattre les cartes. C'est la technologie, d'une part, mais c'est également aussi la question de la sécurité. On ne peut plus se permettre, comprenez, Dans l'internationalisme libéral, il y avait quelque chose de naïf. Ça, là-dessus, faut au moins donner raison à Donald Trump. On a joué les naïfs en disant, si la Chine se développe, elle va nous rejoindre et tout le tralala. Bon, c'est pas ça qui s'est produit, au contraire. Et donc, la question des enjeux pour les États-Unis, ça fait partie des... face à la Chine, il y a toujours... deux questions qui reviennent de manière, je dirais, presque pathétique. D'abord, est-ce que la Chine est une économie de marché?
J'ai eu un débat.
Ah ben oui, et d'ailleurs, la Chine n'a pas voulu s'engager là-dedans, elle a renoncé même à l'OMC, elle a renoncé à ça parce que elle savait qu'elle était dans le trou à ce niveau-là. Donc
D'ailleurs,
là,
qu'elle assume toujours le statut de pays en développement.
ah oui, moi aussi. Mais ça dépend. Des fois, elle est en développement, mais des fois, elle est développée. Donc, ça, c'est un... Mais ça revient qu'à un débat de l'OMC. Hein. C'est de la faute à l'OMC aussi, si on n'a pas de critères pour définir c'est quoi un pays en développement. Mais bon, indépendamment de ça. Donc, ça, c'est un premier débat qui revient continuellement, l'économie de marché. Le deuxième débat qui revient continuellement, c'est la protection des données, la protection intellectuelle, la propriété intellectuelle.
Donald Trump en a fait tout un discours, hein, pendant
Oui.
son mandat.
Il y aurait peut-être un troisième débat, c'est la question de la propriété privée, mais au moins déjà la technologie, c'est un élément clé. Vous ne pouvez pas vous permettre, quand vous êtes une nation importante, de vous faire pirater continuellement, de vous faire voler vos affaires. Il y a quelque chose de naïf de la part souvent, des compagnies comme Airbus qui vont s'installer en Chine et s'imaginer qu'on ne va pas les... On ne va pas copier leur truc. Bon, ça fait partie, je comprends quand ça peut être une contribution au développement, mais pas de la façon dont la Chine entend justement, je dirais, rattraper très rapidement son retard là-dedans. Donc, la discussion qui a lieu aujourd'hui, elle consiste dans le fond essentiellement, peu importe les mesures qui sont prises, mais à consolider les chaînes de valeur, à les renforcer au nom de la sécurité. Et donc, ça fait partie un peu des mesures de soutien qui ont été prises, notamment dans le cadre de la lutte contre l'inflation. C'est pas, il y a des dimensions protectionnistes qui demeurent toujours, disons-le, dans le cadre de l'automobile, sous Trump, etc. Mais fondamentalement, l'enjeu n'est pas là. L'enjeu est vraiment de consolider les chaînes de valeur en Amérique et de consolider les liens entre ces chaînes de valeur-là et les chaînes de valeur en Asie ou en Europe.
Donc,
Donc,
dès qu'on est
justement,
dans une interdépendance plus prudente, monsieur de Vos.
j'irais même plus que l'interdépendance, c'est de l'interconnexion. Il faut que tout ça s'emboîte les uns dans les autres. Et donc, c'est important pour tout le monde. Là-dessus, je peux vous dire une chose, c'est que les Européens et les Américains sont sur la même longueur d'onde. Peut-être pas la même vision des valeurs, la même vision des réglementations, mais on est sur la même longueur d'onde. Il faut qu'on puisse s'interconnecter et qu'on puisse en fait sécuriser cette interconnexion. Donc, c'est ça l'enjeu aujourd'hui, la nouvelle dynamique d'une économie mondiale qui est vraiment de plus en plus dématérialisée, qui est de plus en plus technologique, c'est s'assurer finalement que les liens qui se créent, ils sont solides et surtout durables. Là, encore une fois, je reviens à ce qu'on avait dit précédemment, le Covid nous a alerté d'une chose, oh boy, c'est fragile ces dialogues. On ne peut pas se permettre d'avoir des pénuries de médicaments, on ne peut pas se permettre d'avoir des pénuries de terres rares pour les batteries, pour les puces, que sais-je. Oui. Donc,
La transition énergétique.
la transition énergétique, donc, tout ça, c'est là. Donc, on consolide les chaînes de valeur. Il y a subitement, je dirais, un discours qui s'est centré sur la mi-localisation et qui est, je dirais, porté aux États-Unis par Catherine Tai, par Madame Raimondo, par Janet Yellen, d'autres, mais également qui est porté aussi au Canada par Chrystia Freeland, qui en a fait tout un speech. Il faut qu'on consolide nos chaînes de valeur, nos relations, et dans ce sens-là, bon, que je verrais pas tant un problème de protectionnisme dans toutes ces mesures-là, du moins, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, alors j'entends là-dessus. Les Américains ont toujours été très forts là-dessus. Mais pour moi, ce qui est nouveau, qu'on a du mal à cerner, c'est dans le fond d'avoir des relations qui sont de proximité. Et remarquez, en Europe, c'est la même chose. Hein? C'est la même chose. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des chaînes de valeur. L'Allemagne, subitement, elle s'est trouvée complètement dépendante avec la guerre d'Ukraine, par rapport au gaz qui
Au
vient de
gaz
Russie.
russe.
Bon. Donc, vous voyez, et la Chine, c'est pareil. Donc, tout ça, il y a une convergence, je dirais, d'intérêts et de valeurs par-delà les enjeux géopolitiques et géoéconomiques des rivalités qui existent à l'heure actuelle dans le monde.
Pour finir, Monsieur Deblocq, on parlait de Chrystia Freeland, la vice-première ministre du Canada. Et le Canada, alors, dans la stratégie de l'Indo-Pacifique, comment la stratégie canadienne de l'Indo-Pacifique se positionne au regard de la rivalité entre les États-Unis et la Chine? Qui sont finalement ses principaux partenaires commerciaux?
Disons qu'elle a du plomb dans l'aile, comme on dit. Le Canada a défini, et je veux dire, a sorti une politique indo-pacifique quelques mois après la politique américaine. Il y avait urgence, c'était évident. Elle est très inspirée quand même de ce qui se passe aux États-Unis, mais il y a deux choses qui m'ont frappé dans cette stratégie. La première, c'est qu'il y a un discours extrêmement agressif contre la Chine. Vous pouvez vérifier, je pense que dans la stratégie de Biden, la Chine, le mot Chine revient trois fois dans le document. Dans la Chine, pour le cas du Canada, ça revient, il y a même trois, quatre pages, peut-être pas quatre pages, mais 2 pages et demie sur la Chine, avec un discours extrêmement agressif. Donc ça aide pas beaucoup, je dirais. Bon. Là, le Canada a réussi à se mettre les pieds dans le plat avec l'aide. Donc déjà, l'Inde n'est pas un partenaire très facile, qu'en plus, bon. Donc ça fait quand même, je dirais, deux gros morceaux, l'Inde et la Chine, avec lesquels on a des problèmes. Reste l'ASEAN. Alors, l'ASEAN a des priorités. D'ailleurs, pour les pays, la Chine a pointé dans l'ASEAN notamment le Vietnam, parce que le Vietnam a quand même déjà des partenariats stratégiques avec l'Europe, avec les États-Unis, et certainement, on peut négocier un accord de libre-échange avec le Vietnam. Mais là, il y a une chose que le Canada, qui est problématique avec le Canada, indépendamment des conflits politiques et diplomatiques, mais il y a une question, c'est que le Canada est un petit pays. Comment intéresser des partenaires? Comment intéresser? On l'a vu avec les négociations que l'Europe, c'était, je dirais pas la croix et la bannière, mais c'était vraiment difficile de négocier avec les pays européens qui voyaient pas trop l'intérêt d'avoir un accord de libre-échange. Ça mobilisait beaucoup de monde. Bon, et en même temps, ils ont vu l'intérêt quand ils se sont dit que ça a été un ballon d'essai pour des négociations avec les États-Unis. Alors, c'est un peu le problème du Canada, c'est la difficulté, je dirais, d'intéresser des partenaires commerciaux pour les accords. Parce qu'il y a la question de la taille, mais il y a la question aussi qu'est-ce qu'on peut offrir? Vous savez, dans la négociation, c'est vous n'avez jamais d'amis, vous avez que des intérêts. Donc, mes intérêts à moi, c'est quoi? Les intérêts des autres, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on peut offrir réciproquement? Et je vous dirais que sur le plan stratégique, la stratégie qui a été la plus concluante pour le Canada, c'est de suivre les États-Unis. Ça peut être paradoxal parce que on a même publié un ouvrage où on posait la question et le Canada a besoin de diversifier ses échanges, a besoin de diversifier son économie. C'est une des économies les plus concentrées, les plus centrées sur un seul partenaire et surtout un nombre très réduit de produits, des matières premières. Donc on a besoin d'utiliser les partenaires, mais en même temps, on a du mal à négocier des partenariats. On a du mal aussi à gérer ces partenariats. Avec l'Europe, c'est bien gentil, ça, mais quel est le suivi de l'accord qu'on a signé avec les pays européens? Si c'est vraiment important, c'est quand même à ce moment-là qu'on mette le paquet dans nos relations avec le Mexique, qu'on mette le paquet avec nous. Vous voyez, des choses où le Canada, c'est pas vraiment très fort. Disons-le, je veux pas être trop critique, mais c'est. Donc, il y a vraiment matière à amélioration de ce côté-là. Et donc, par rapport à ça, quand on a une stratégie, je dirais, qui pose autant de problèmes, l'approche suivre les États-Unis devient un enjeu, parce que les États-Unis, c'est un peu c'est le gros, c'est le mammouth, c'est l'éléphant. Donc, la souris a peut-être intérêt à suivre l'éléphant pour faire la comparaison de Pierre-Elliott Trudeau. Donc, et en même temps, et c'est pour ça d'ailleurs que le Canada, à chaque fois que les États-Unis signent un accord quelque part, ils sont tout de suite là pour, dans le fond, essayer d'avoir la même chose. Et en même temps, comme le terrain a déjà été déblayé par les États-Unis, ça aide. Bon. Alors, c'était la stratégie qui a prévalu d'ailleurs pour le partenariat transpacifique. La position américaine, pendant très longtemps, était de dire, bah, vous savez, moi, j'en aime bien le Canada, mais excusez-moi l'expression, mais ce sont des enquiquineurs. Ils vont nous rappeler ci, ils vont nous rappeler ça. Donc, on va attendre que c'est déjà bien avancé. C'est ce qu'ils ont fait, finalement. Donc, au dernier moment, on a introduit le Canada dans les négociations, mais l'essentiel, beaucoup de choses avaient déjà été convenues entre les pays. Et c'est un peu la
C'était
même
passé
chose.
dans la CU même. Avec le
Comment?
Mexique d'abord. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé lors des négociations de la CEOM entre les États-Unis et le Mexique, qui est rejoint après par le Canada.
Exactement. Je pense que c'était un choc pour le Canada de voir que les États-Unis avaient signé avec le Mexique et surtout de l'apprendre. Ça, c'est encore toujours pareil. Et donc, la même chose se présente à l'heure actuelle avec l'IPEF sur le Canada cherche à rentrer dans les négociations. Mais les États-Unis n'ont pas de réponse. Ils sont, pour le moment, non. Il n'y a d'ailleurs aucun pays des Amériques qui fait partie de ces négociations. C'est vraiment les États-Unis en tête à tête avec les pays dits de l'Indo-Pacifique. Alors peut-être à un moment donné, on va faire rentrer les bons joueurs, qui sont toujours les alliés importants des États-Unis dans les Amériques, le Canada, le Mexique surtout, qui est devenu vraiment, je dirais, le premier partenaire commercial des États-Unis dans les Amériques, mais des pays comme éventuellement le Chili ou d'autres avec lesquels les États-Unis ont des accords de libre-échange. Mais pour le moment, je dirais, le Canada mise sur l'ASEAN et plus particulièrement sur le Vietnam. C'est une stratégie qui peut être, je dirais, gagnante, dans la mesure où le Canada a montré en quelque sorte ses capacités dans le partenariat transpacifique global et progressiste. Mais en même temps, si ça bouge pas du côté américain, je vois mal comment on va aller, on va avancer, parce qu'il ne faut pas non plus oublier qu'il n'y a pas que le Canada dans le monde, il y a l'Europe qui négocie, il y a aussi les États-Unis, il y a d'autres. Et donc, pour moi, ça reste encore sur le terrain. Et je dirais que, mis à part, et je terminerai là-dessus cette question, je dirais que, mis à part le fait qu'il faut absolument accrocher les wagons au train américain, mais également aussi, je pense, ça c'est pour moi la principale lacune canadienne, c'est qu'il faut soigner ses amis avec lesquels on a des accords. Et avant d'engager d'autres, commençons avec l'Europe, commençons avec les Amériques. C'est pas tout de rappeler qu'on est les 13 amigos à chaque réunion des pays de l'ALENA, la CEOM. Non, il faut quel est l'état de nos relations avec le Mexique. Et quand je parle de relations, ça va au-delà de l'économie, parce que ça touche à la culture, ça touche à l'identité, à la reconnaissance. Reconnaître les pays pour tout ce que ça vaut. Et arrêter, je dirais, ça va être le mot de la fin, arrêter de donner des leçons de morale à la planète entière. Ça, c'est. Je trouve que, encore une fois, dans les négociations commerciales, bon, la morale n'a vraiment pas sa place là-dessus. On peut faire des remarques, on peut privilégier certaines approches, mais arrêtons. Bon, voilà, c'est ça. Voilà.
Mais c'est avec votre observation, Monsieur De Blocq, que nous allons terminer ce dialogue, cette conversation, ce podcast. Nous vous remercions énormément d'avoir accepté d'être notre premier invité pour cette série de podcasts sur la chronique commerciale américaine. Monsieur De Blocq, merci.
Merci à vous, Monsieur Simon, de m'avoir laissé la parole.
Chers auditeurs et auditrices, nous arrivons au terme de ce premier épisode de la Chronique commerciale américaine, le podcast. Restez à l'écoute pour de nouveaux épisodes où nous continuerons à explorer les dynamiques complexes du commerce international. Ne manquez pas d'approfondir la question en consultant le numéro de février 2024 de la Chronique commerciale américaine, publié par le CIM, ainsi que la note de recherche de Christian De Blocq intitulée Les États-Unis, le Canada et les négociations Indo-Pacifique. Le tout en accès libre et gratuit sur le site du CIM, www.ceim.ucam.ca. C'était Brice Armel Simeux à la présentation et je vous dis à la prochaine. Merci. Au revoir.